Une émission présentée par Aline.
Bonjour à toutes et à tous. Je vous présente le journal hebdomadaire de la vie quotidienne. Au sommaire cette semaine, le thème principal parlera de l'arthrose, ses inconforts, ses douleurs et comment prévenir et prendre soin de ses articulations. Dans la rubrique « Ces aliments qui nous soignent », nous aborderons le chou paumé. Sa culture est très ancienne et daterait de la fin du néolithique. Je vous donnerai la recette et vous guiderai dans la préparation d'une spécialité coréenne, le kimchi, qui est un bon condiment pour prévenir aussi de l'inflammation articulaire. Mais tout de suite, commençons par parler ensemble de ce fléau, qui est cette affection rhumatologique la plus courante après 50 ans. Si votre grand-mère se mettait des feuilles de chou sur les genoux pour soulager son arthrose ou ses rhumatismes, elle avait raison. L'arthrose n'est pas un simple processus d'usure qui apparaît avec le temps. C'est le résultat d'un processus inflammatoire provoqué au départ par un traumatisme ou par d'autres causes inflammatoires du type intolérance alimentaire, troubles de l'équilibre et de la statique ou encore d'une faiblesse des reins qui, elle, va se manifester par des douleurs lombaires qui vont générer des douleurs au niveau des genoux et ainsi démarrer le cycle infernal. L'inflammation se caractérise par ses quatre manifestations: rougeur, chaleur, congestion et douleur. C'est la réponse de notre corps face à une agression. L'arthrose n'est pas, comme on le croyait jusqu'alors, le résultat d'une simple usure du cartilage à la manière d'une semelle qui a trop servi, mais bien la conséquence d'un trouble qui touche la cellule spécialisée qui fabrique le cartilage et qui s'appelle le chondrocyte. Le chondrocyte est la pièce maîtresse de l'articulation. Inlassablement, jour après jour, il synthétise tous les éléments du cartilage qui assureront le bon fonctionnement de l'articulation, c'est-à-dire le collagène, qui lui donne sa résistance, et les protéoglycanes, qui sont comme de grosses éponges et qui permettent d'absorber les chocs. Je sais, vous allez me dire que j'utilise un vocabulaire un peu compliqué, mais je vous assure que c'est pas moi qui l'invente. La science utilise des mots compliqués. Alors, retenons. L'arthrose, douleur inflammatoire des articulations. L'inflammation, rougeur, chaleur, congestion, douleur. Le chondrocyte, cellule spécialisée dans la fabrication du cartilage. Le collagène, protéine structurale qui permet au cartilage une résistance mécanique à l'étirement. Et la protéoglycane, c'est une glycoprotéine qui permet la rétention d'eau et permet d'absorber les chocs. Malheureusement, dans l'arthrose, le chondrocyte est devenu fou et se met à détruire le collagène et les protéoglycanes sans pouvoir en fabriquer de nouveau. Et une articulation sans cartilage est soumise à une inflammation chronique, devient raide et fait souffrir. Si vous dépassez vos limites, vos ligaments trinqueront. Les ligaments stabilisent nos os et leur permettent de se mettre en mouvement. Lorsque nous utilisons nos articulations, nous éprouvons leur solidité et leur souplesse. Mais une articulation ne peut accepter des contraintes que jusqu'à un certain niveau. Au-delà, les membranes se déchirent. Mais toute articulation douloureuse n'est pas synonyme d'arthrose. On suspecte celle-ci dans le cas d'une douleur de type mécanique qui se manifeste dans la journée et qui disparaît la nuit, qui augmente avec les activités mais qui cesse au repos, et qui s'accompagne d'une raideur matinale d'au moins une demi-heure. C'est tout le contraire de la douleur arthritique. L'arthrose, même si elle peut, à un stade avancé, se caractériser par une poussée inflammatoire est avant tout une maladie dégénérative, alors que l'arthrite est une inflammation élevée et précoce de l'articulation, soit d'origine infectieuse, comme par exemple la maladie de Lyme, dans laquelle l'agent infectieux est la bactérie Borrelia, transmise par les tiques, soit dysimmunitaire, comme la polyarthrite rhumatoïde, due à la production d'anticorps dirigés contre les articulations, ou métabolique, comme la crise de goutte, qui elle est liée à un dépôt d'acide urique dans les articulations et touche le plus souvent le gros orteil. Cette distinction est importante à faire car la réponse et le traitement ne seront pas les mêmes. Si cela vous intéresse, vous pourrez consulter sur le site de la radio, associé au podcast de notre émission, le jeu des 8 différences entre arthrose et arthrite. Je reviens donc à notre sujet sur l'arthrose. Si on parvient à stopper ce processus inflammatoire, on parviendra à stopper l'apparition de l'arthrose. Facile à dire, car il existe dans certains cas un terrain héréditaire, jusqu'à 20% des cas d'arthrose après 55 ans. Alors, voyons de quoi dispose notre mère nature. Car il va être intéressant de nourrir le cartilage. Et pour cela, un apport de silice et de zinc ainsi que de vitamine C vont s'avérer très utiles pour lutter contre l'inflammation. Il y a aussi la griffe du diable, de son vrai nom l'Arpagophytum procubens, associé à du saule blanc, est un bon complexe, d'une part une plante anti-inflammatoire et de l'autre une plante qui n'est autre que de l'aspirine naturelle. Vient ensuite la curcumine, contenue dans le curcuma, qui est un puissant anti-inflammatoire décrit en Inde depuis 3000 ans. Le cassis, Rubus nigrum, est déjà vanté par Hildegarde de Bingen au XIIe siècle, qui l'appelait l'arbre goutteux, sa seule contre-indication étant l'hypertension. Selon la médecine chinoise, un étrange remède permettrait de soulager durablement l'arthrose. Elle conseille de consommer du bois de velours. Mais qu'est-ce que c'est le bois de velours ? Eh bien, c'est ce qui recouvre les panaches des cerfs en début de leur croissance. C'est une substance veloutée, essentiellement composée de cartilage. C'est en observant l'alimentation des cerfs rouges que les scientifiques ont noté qu'ils se nourrissent et raffolent de bourgeons. Les vertus anti-arthrose des bois de velours ne viendraient donc pas des cerfs, eux-mêmes, mais des bourgeons qu'ils mangent. Alors, nous aussi, consommons ces végétaux, car ils sont bourrés de vertus pour notre santé. Voici les 6 bourgeons en gémothérapie qui vous feront du bien. Le bourgeon de bouleau aurait une action drainante et des vertus apaisantes sur les troubles articulaires, car il est riche en flavonoïdes et il est appelé l'arbre de la souplesse. Le bourgeon de frêne réduirait les douleurs articulaires en drainant l'acide urique, qui sont les petits cristaux qui sont dans les articulations. Le bourgeon de pin, aux effets reminéralisants. Le bourgeon de ronce contribuerait à réoxygéner les tissus articulaires et favoriserait l'activité ostéoblastique et la reconstruction de l'os. Le bourgeon de vigne, aux propriétés antioxydantes, aurait des vertus apaisantes et régénératrices au niveau des articulations des mains et des pieds. Et le bourgeon de cassis, qui est le bourgeon qui permettrait de lutter au mieux contre l'arthrose, car il concentre toutes ses vertus à la fois. Dans les plantes bonnes contre la douleur arthritique, il ne faut pas négliger l'ortie. L'ortie, aussi bien en teinture mère, en infusion ou en soupe, car en plus d'inhiber divers processus inflammatoires, elle est reminéralisante et drainante. Il y a aussi la scrofulaire, la reine des prés, le cassis, le saule, la réglisse et la verlyriane, qui recommandées en extrait de plantes fraîches standardisées, les EPS, sont bonnes pour les personnes plutôt sédentaires. Au-delà de toutes ces plantes, il ne faudra pas négliger le facteur de stress, qui amplifie les messages douloureux au niveau du cerveau, Il sera aussi nécessaire d'adopter une alimentation adaptée, car derrière l'inflammation à bas bruit de l'arthrose, il se cache souvent une intolérance à certains aliments, comme les produits laitiers ou riches en gluten. Et cela renvoie à la problématique de la perméabilité intestinale. Ne pas négliger de pratiquer une activité adaptée à votre corps, comme le pilates, le qigong, l'aquagym, qui ménage et protège les articulations portantes comme les hanches et les genoux. Alors soyez persévérant, car il est possible de réduire significativement le risque de douleur et même de séquelles avec une arthrose installée. La sagesse orientale nous explique que la vie s'exprime dans la matière et dans le subtil, dans la densité et dans le vibratoire, dans le corporel et dans le psychique. En conclusion, je relèverai que le point commun entre ces lésions de causes multiples serait la difficulté à plier face à un événement de la vie. Quel est le moment où il faut avoir la sagesse d'accepter les choses telles qu'elles sont, de ne plus lutter et de les accueillir? De la ténacité à l'entêtement, la frontière est mince. Merci à David Sayag, Thierry Soucard, Éric Laurin, Jean-Paul Curté, Rodolphe Baquet, Annie Casamayou et Julien Venesson qui m'ont nourri de leurs recherches. Dans la rubrique « Ces aliments qui nous soignent », parlons maintenant du chou. Brassica oleracea, variété capitata. Je vous disais que sa culture est très ancienne, datant probablement de la fin du néolithique. Et dès l'époque romaine, les ancêtres de la plupart de nos variétés de choux existaient déjà. Le chou fut longtemps l'aliment de base dans nos campagnes et il eut aussi une réputation thérapeutique dès le 3e siècle avant Jésus-Christ. Plus près de nous, c'est sous la forme de choucroute qu'il aida les marins au long cours et les peuples du nord et de l'est de l'Europe, ceux-là même qui devaient affronter de longs hivers à lutter contre le scorbut. Le chou vert est riche en eau, à peu près 88%, mais très pauvre en lipides, en glucides et en protides. Il est donc aussi hypocalorique, c'est-à-dire qu'il contient très peu de calories. Sur le plan des vitamines, ce qui le caractérise le plus, c'est sa haute teneur en vitamine C. C'est d'ailleurs l'un des légumes les plus riches en vitamine C. Il est également très généreux en vitamine E. C'est assez rare de trouver cette vitamine en abondance dans les légumes. Il apporte également une très bonne quantité de carotène, appelée les provitamines A. Il contient également un large choix de vitamines B et K. Et enfin, il est riche en soufre et en potassium. Il est de nature neutre et sa saveur est douce. Le chou nous offre aussi un fantastique cocktail bien dosé de trois antioxydants puissants. Cela explique probablement pourquoi on constate moins de cancers dans les régions où il est beaucoup consommé. C'est un légume important pour le fumeur, le buveur, car le tabac et l'alcool augmentent leurs besoins en antioxydants. Le jus de chou donne d'excellents résultats dans les ulcères de l'estomac ou du duodénum ainsi que dans les colites. Boire 2 à 3 fois par jour en dehors des repas sur un ventre vide. Le jus de chou a également démontré de bons effets dans les douleurs biliaires, dans le cadre des cholécystites chroniques. Certains nutritionnistes chinois le préconisent en préventif dans les cancers du tube digestif, ainsi que pour le diabète, grâce à ses propriétés hypoglycémiantes, ce qui revient à dire qu'il fait baisser le taux de sucre dans le sang. Le chou cru peut provoquer des distensions abdominales ou des flatulences, probablement à cause de ses composés soufrés. Et pour éviter les ballonnements, vous pouvez aussi ajouter quelques graines de carvi, de cumin ou de fenouil en fin de cuisson. Attention, le chou réduit l'absorption d'iode. Si vous en mangez plus de 3 fois par semaine, soyez sûr que votre thyroïde fonctionne bien. Il reste un remède populaire en Chine et aussi dans nos campagnes en usage externe. Demandez donc à Anne Portier, cette brillante naturopathe, qui voue une admiration sans limite pour les feuilles de chou et qui l'exprime de la sorte. Là où échoue l'argile, il y a le chou. Les feuilles sont appliquées sur les entorses, les ulcères de jambes, les inflammations du sein, chez la femme, comme chez les animaux de la ferme d'ailleurs. Des applications de feuilles broyées sont aussi utilisées contre les douleurs articulaires. Un texte médical chinois ancien dit qu'il renforce les tendons et les os. En dehors de la soupe, au niveau alimentaire, le chou ne doit pas être cuit trop longtemps, avec peu d'eau, sinon ses qualités gustatives et nutritionnelles diminuent. Même pour la soupe, il est intéressant de l'intégrer dans le liquide vers la fin de la cuisson, après que les autres légumes soient presque cuits. Il est déconseillé de le cuire avec des aliments très acides comme le citron, le vinaigre ou même une substance alcaline comme le bicarbonate de soude. Je conclurai en disant que le chou fut appelé le médicament des pauvres au Moyen-Âge, tant il a d'indications et tant il est efficace. Pour cette pause musicale, retrouvons Yoo Sun-na, une artiste coréenne incroyable, aux mille voix qu'il habite. Son registre est si large qu'il nous surprend à chaque titre. Elle se distingue par sa voix, qu'elle utilise comme un instrument de musique. Ses albums mêlent compositions et reprises. Elle chante aussi bien en coréen qu'en portugais, en espagnol ou en hébreu, et cela augmente le caractère exotique de ses choix. Écoutons Momento Magico.
Do 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 do
Pour rester dans le thème, après cette incroyable chanteuse coréenne, je vous propose de tout vous dire sur le kimchi, qui est, lui, une spécialité culinaire coréenne proche de notre choucroute. Il est un formidable allié en hiver, car il est très riche en vitamine C, et par ailleurs, il peut prévenir les problèmes articulaires. C'est une préparation de choux chinois fermenté et épicé. Alors voici comment le réaliser. Il vous faudra un chou chinois, 2 cuillères à soupe de gros sel, un oignon, un petit poivron rouge et hors saison le remplacer par 2 cuillères à café de paprika moulu, un morceau de gingembre, une gousse d'ail, du piment d'Espelette, de la ciboulette ou un oignon vert et un bol d'eau. La préparation se fera de la manière suivante. Coupez le chou chinois en morceaux d'environ 2 cm carrés et mettez-le dans un saladier. Ajoutez-y l'équivalent d'un bol d'eau ainsi que 2 cuillères à soupe de gros sel. Posez une assiette sur ce mélange et un poids lourd dessus pour tasser le chou. Laissez reposer le chou entre 6 à 12 heures à température ambiante. Après ce temps, versez le chou dans une grande passoire et pressez-le au-dessus d'un saladier pour filtrer l'eau qu'il a rendue. Réservez l'eau du chou. Coupez finement l'oignon, le poivron rouge, enlevez-lui les pépins, le gingembre, l'oignon vert ou la ciboulette, écrasez la gousse d'ail et ajoutez tous ces ingrédients au chou. Ajoutez une pointe de piment d'Espelette et malaxez le tout avec vos mains. Placez tout ça dans un bol en verre préalablement ébouillanté, tassez la préparation au fond du bocal, et vous verrez un liquide émerger. Ne l'enlevez pas. Il est indispensable pour éviter l'oxydation et le développement des moisissures. Ajoutez un léger surplus en utilisant l'eau salée issue du dégorgement du chou. Fermez le bocal. Laissez-le reposer 24 heures à température ambiante, à l'abri de la lumière. Au bout de ces 24 heures, ouvrez le bocal pour libérer les gaz dus à la lactofermentation, puis refermez et laissez travailler encore 24 à 36 heures de plus. Et si au bout des 24 heures supplémentaires le goût vous convient, placez le tout au réfrigérateur. Votre kimchi se conserve plusieurs mois. Il est excellent sur des tartines ou dans des soupes ou en accompagnement de légumes et de riz. Et sachez que les légumes lacto-fermentés sont remplis de probiotiques, bons pour votre flore intestinale. Alors, bonne dégustation. Et voilà, notre émission s'achève pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt. Retrouvons-nous la semaine prochaine, même lieu, même heure. Et d'ici là, portez-vous bien, pensez à bien respirer, à bien manger, à bien rigoler, à bien bouger, à bien vous reposer, à bien aimer. Vous pouvez retrouver l'émission en podcast sur le site de Radio Sainte-Afrique, dans les hebdos, la Vida Vidanta. Et si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, l'émission sera rediffusée le samedi à 8h15. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter. Adisiat.